Ce soir, nous allons partager sur le thème de la paix. Car vous savez qu'il viendra un temps sur la terre où lorsque l'Antéchrist sera venu, que l'Église aura été enlevée, la paix sera enlevée sur la terre. C'est écrit où ça? Allez, vous allez m'aider. Il faut que vous m'aidiez. Vous êtes en vacances? Oui? Hein? C'est écrit où? L'Apocalypse? Chapitre 6. On peut le lire quand même parce que ça, c'est des textes terribles. Vous savez que Jésus est venu pour accorder la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Jusqu'à quand la grâce demeurera-t-elle? Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais regardez, dans l'Apocalypse, chapitre 6, il est parlé de l'ouverture des sept sceaux. On ne va pas parler de la venue de l'Antéchrist sur la terre. Mais vous savez que ce qui retient la venue de l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit par l'Église. Et quand l'Église aura été enlevée, regardez ce qui va arriver. On va lire à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 6. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'attendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Et ça, c'est l'Antichrist, c'est le faux Christ. « Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit, un autre cheval, roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, une grande épée lui fut donnée. » Et quand vous lisez la fin du chapitre, verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister ?» Le chapitre 6 nous parle de la colère de Dieu qui vient sur la terre. Vous avez vu tout ce qui se passe sur la terre? Est-ce que vous avez vu? Et nous ne voyons qu'un dixième, qu'un centième, qu'un millième par les infos de ce qui se passe vraiment. Et pourtant, il viendra un jour où les choses seront bien plus graves et bien plus terribles. La paix sera enlevée de la terre. Mais bonne nouvelle, ce soir, Dieu vous donne la paix. Dieu vous redonne la paix. Peut-être que vous l'avez perdue. Peut-être que vous en êtes éloigné. On va voir quelques textes. C'est important d'avoir la paix. Vous l'avez la paix ce soir? Est-ce que vous avez la paix? Heureux êtes-vous? Vous savez, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'argent? Hein? Mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous ne pouvez pas faire beaucoup de cadeaux aux gens. Mais s'il y a bien un cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui procurer la paix. Il a dit Jésus dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui procurent la paix ». Heureux êtes-vous si vous procurez la paix aux autres, à vos parents? Vous avez toujours vos parents? Eh bien, faites en sorte, ou vos grands-parents, faites en sorte de leur procurer la paix. Vos voisins, vos amis, vos enfants, votre conjoint. Peut-être que vous avez la grâce d'avoir un conjoint. Eh bien, heureux êtes-vous si dans votre foyer, vous procurez la paix à votre conjoint. C'est un immense trésor que d'avoir la paix, croyez-moi. La paix, on peut la perdre. Regardez, on va voir quelques textes. On va commencer dans l'évangile de Jean. J'ai commencé par un texte terrible de l'Apocalypse pour vous montrer que les choses seront très très graves pour tous ceux qui ne connaîtront pas l'enlèvement de l'Église, pour tous les païens et tous les chrétiens de nom qui ne seront pas enlevés, qui vont vivre des choses terribles. Et Jésus pourtant donne la paix. Jean chapitre 14. On va lire plusieurs textes parce que c'est un sujet très sérieux. Ce soir, c'est sûr, Dieu veut vous donner la paix. Jean chapitre 14, verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Verset 29. « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Chapitre 17, verset 13. « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, comment ? Parfaite. » Et c'est pas, il n'y a pas que là, j'ai pas lu regardez au chapitre 16, au verset 24, on voit le souci du Seigneur, alors qu'il va être livré, crucifié, qu'il va donner sa vie, de nous procurer sa paix et sa joie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. voyez, il va mourir sur le bois de la croix. Et qu'est-ce qu'il est? Il est préoccupé par le fait que les disciples soient dans la paix et dans la joie. La joie, ce n'est pas une joie exubérante. C'est une satisfaction intérieure de savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous a tout annoncé à l'avance et que nous pouvons vivre dans la paix. Oui, mais je le répète, cette paix, nous pouvons la perdre parce que nous ne réalisons pas que Jésus-Christ est vivant. On a chanté ce beau cantique, « Ma foi est vivante en un Dieu vivant ». Ça résume très très bien la vie chrétienne, la parole de ce cantique. Dans Jean chapitre 20, on voit 10 hommes qui sont dans la peur. Et ce sont des hommes qui vont, une fois être remplis du Saint-Esprit, changer l'histoire du monde. Ils ont été choisis par Jésus-Christ et pourtant ils sont enfermés dans la peur. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur? Même en étant chrétien? Eh bien oui, ça peut arriver. Jean chapitre 20, verset 19, c'est le jour de la résurrection. C'est pas le plus grand jour de l'histoire, ça? Le jour de la résurrection. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Vous ne croyez pas que Jésus aurait pu leur faire quand même de sérieux reproches? Est-ce que Jésus aurait pu leur faire des reproches? Ben oui. Vous vous rendez compte combien de fois Jésus leur avait dit « Mais il faut que je meure, il faut que le Fils de l'homme souffre, il faut qu'il soit livré entre les mains des sacrificateurs, il faut qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Il leur a dit je ne sais pas combien de fois. Et quand c'est arrivé, ils étaient troublés. Et c'est pour cela que les gens perdent la paix. Les gens perdent la paix parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ont du mal à croire la parole de Dieu. Alors regardez. Quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Vous avez vu, ils étaient dans la crainte et en voyant Jésus, en quelques secondes, ils sont passés de la crainte à la joie. C'est ce que Dieu veut faire ce soir dans le cœur de quelqu'un qui serait dans la crainte, la peur du lendemain, la crainte par rapport au travail, la crainte par rapport à un problème physique, un problème de santé, un problème familial. Dieu, si vous réalisez sa présence, est capable instantanément de vous communiquer sa paix. Il avait de quoi leur faire un tas de reproches et je pense que si le Seigneur voulait ce soir, il pourrait nous faire un tas de reproches. Oui ou non? Est-ce que Dieu pourrait nous faire des reproches? Eh bien, voyez, il ne passe pas son temps à nous faire des reproches. Je crois que le Seigneur, il est préoccupé par le bon sens que nous devons avoir pour conserver cette paix. Comme l'a dit Raymond dans les Cantiques, il est le prince de la paix. Quand Ésaïe prophétise la venue de Jésus, il dira, on l'appellera le prince de la paix. Cette paix, l'ennemi vous l'a-t-il volée? Vous avez certainement déjà vérifié que dans un combat spirituel, dans une épreuve, eh bien, un matin, vous vous êtes réveillé et vous aviez perdu la paix. Fais-moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis le seul à qui cela est arrivé? Non. Le diable s'appelle le voleur. Il n'a qu'un but, nous détruire, nous égorger spirituellement et voler notre paix. Peut-être que le péché nous a éloignés de la paix. Est-ce que quand on pêche, on a la paix? Eh bien, on la perd, la paix. Mais heureusement. C'est une grâce. Lorsqu'un chrétien commet un péché, qu'il perde la paix. Ça lui permet de se ressaisir, d'avoir une vraie culpabilité. Parce que s'il y a des fausses culpabilités, il y a une vraie culpabilité. C'est bien, dans ce cadre-là, de perdre la paix. Parce qu'au moins, je dis, ah, j'ai péché, il faut que je répare cela. Dieu peut nous l'avoir retiré parce qu'on n'a pas observé sa parole. Regardez dans Jérémie. Dans Jérémie, au chapitre 16, Dieu retire la paix. Le diable peut nous la voler, c'est un fait. Mais il est aussi écrit que Dieu peut nous la retirer. Eh oui, Seigneur, il sait ce qu'il fait. Vous inquiétez pas, ce n'est pas une punition, c'est une façon de nous attirer. Jérémie, chapitre 16, c'est la fin du verset 5. On va lire le verset en entier. « Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. » C'est terrible. Vous ne trouvez pas ça terrible? Non? Ça ne vous fait pas quelque chose de voir Dieu qui est obligé de dire « J'ai retiré à mon peuple la paix ». Alors on a l'explication au verset 10. Regardez bien. Parce qu'il faut lire et comprendre. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne pas m'écouter. Et voilà comment ça commence lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Ce soir, est-ce que, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu, je suis persuadé que si vous êtes venu, c'est que vous aimez le Seigneur. Je le crois vraiment. Mais est-ce que vous êtes venu avec ce souci de vraiment écouter, si Dieu avait quelque chose à me dire, comme a dit un jour ce centenier, mais dis un mot, dis un mot. Il avait compris qu'il n'avait pas besoin de 3 mois de raisonnement. Un mot. Est-ce que vous croyez qu'avec un mot, Dieu peut vous bénir et vous parler? Voyez, ce peuple avait comment? Ils n'étaient pas contents, mais ils ne comprenaient pas. Et Dieu va leur dire, parce que vous n'avez pas écouté. Vous faites comme vous l'entendez. Ce qui est important, c'est d'être à la bonne place. Thomas n'était pas, le jour de la résurrection, Thomas n'était pas avec les 10 qui restaient. Il est passé à côté de la bénédiction. Et je crois que quand on est dans la maison du Seigneur, on est là où Dieu nous veut. Est-ce que vous pensez que ce soir on est à notre place? Moi je le pense. C'est bien, Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. On voit les apôtres, l'église primitive, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement. On voyait bien que c'était la volonté de Dieu, que les chrétiens aiment se retrouver ensemble. Thomas est passé à côté de la bénédiction la première fois parce qu'il a manqué un rendez-vous. Où était-il? On ne le sait pas. En tous les cas, il aurait dû y être, il n'était pas là. Combien de fois sommes-nous passés à côté de grâce et de bénédiction parce que nous n'étions pas là où Dieu nous aurait voulu? Ça, j'en suis profondément convaincu. La paix, c'est important, parce que franchement, je crois que quand on voit l'Église primitive, malgré la persécution, il nous est dit que l'Église était en paix. À quoi reconnaît-on un véritable chrétien, malgré les épreuves, ou pas, les bénédictions, ou pas? Je crois que ce qui caractérise vraiment un chrétien, c'est qu'il est en paix. Vous êtes d'accord avec moi? Vraiment, je le pense. Un chrétien, il a cette grâce de recevoir la paix, parce que le prince de la paix est en lui, il s'applique à porter du fruit. C'est vrai qu'il faut recevoir les instructions, c'est ce qu'on va voir en quelques minutes. Un chrétien ne peut pas continuer à recevoir la paix s'il ne reçoit pas les instructions. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Recevez mes instructions et vous trouverez le repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, ils n'écoutent rien. Ils vous diront, moi, je n'écoute que Dieu. Ça, déjà là, on voit qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas équilibrés. Parce que je crois que Dieu nous parle aussi au travers des gens. Est-ce que Dieu peut nous parler au travers de frères et sœurs? Mais oui. Oui, mais certainement. Dans la chambre haute, ils étaient dans la crainte. Et on peut être avec Jésus et être dans la crainte. Regardez dans Marc au chapitre 10. C'est important ce que je vous dis. Dimanche, je pense que je vais faire toute une prédication sur le doute. Comment ne plus douter? Je crois que c'est important ce que j'ai eu à cœur aujourd'hui pour dimanche. Mais c'est une affaire qui est sérieuse. On peut suivre Jésus et être dans la crainte. Dans Marc au chapitre 10, on le voit. Pourquoi? Eh bien, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de traverser. Et ça fait que ça vous déstabilise, alors que ça fait partie certainement du plan de Dieu. Si vous êtes chrétien, l'épreuve que vous traversez peut contribuer à devenir la volonté de Dieu. Marc chapitre 10, regardez, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Est-ce que vous pensez que c'était la volonté de Dieu que Jésus aille à Jérusalem pour porter la croix? Bon, ils étaient dans la volonté de Dieu, mais vraiment au centre. Quand vous marchez à côté de Jésus, laissez-moi vous dire que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Et Jésus allait devant eux. Ça ne peut pas être plus au centre de la volonté de Dieu. Les disciples étaient troublés. Vous ne m'aidez pas beaucoup ce soir. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Ils sont au centre de la volonté de Dieu et pourtant, ils suivent Jésus dans la crainte et dans le trouble. Que fait Jésus? Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver, ce que je disais tout à l'heure. Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Le souci du Seigneur Jésus, c'est de les amener à comprendre la volonté de Dieu. Mais voyez, quand on ne comprend pas la volonté de Dieu, eh bien on suit Jésus dans le trouble et dans la crainte. Et ça, ça fait l'affaire du diable qui verra que l'œuvre de Dieu ne se fera pas si les chrétiens sont troublés. Ce qui se passe en Syrie, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à l'accomplissement des prophéties bibliques? Est-ce que vous le pensez? Franchement, moi je le crois vraiment. C'est normal qu'on ait de la peine, mais ne soyez pas troublés. Jésus, avant sa mort, a pris le soin de leur dire « Mais que votre cœur ne se trouble pas, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix, je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit parfaite, parce que notre joie, elle est dans le Seigneur. » Bon, vous avez vu, Jésus, sa bonté, sa patience infinie, il les prend de nouveau, les 12, auprès de lui, et comment de nouveau, quelle grâce. Vous croyez que la patience de Dieu est notre salut? Moi, le jour où j'ai lu ce verset, que la patience de Dieu était notre salut, j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté de lire pour le remercier. Parce que si on est là ce soir, c'est parce que sa patience a été notre salut. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et voyez, quand même, c'était des hommes, c'était des pasteurs choisis pour changer le monde. Et Jésus leur parle de sa mort, de sa crucifixion, de sa souffrance. Et ils ne comprennent pas. Peut-être que vous ne comprenez pas bien les choses. Eh bien, restez auprès de lui, il les a pris avec lui. Quelle image extraordinaire de notre Sauveur. Quand on ne comprend pas, il nous prend. C'est pour ça. Chaque fois que vous lisez la Bible, chaque fois que vous êtes troublé, angoissé, ça peut arriver. Plongez-vous dans sa parole. Plongez-vous, on a chanté, mon âme est rafraîchie, envahie. Quand vous lisez la Bible avec votre cœur, c'est un petit peu comme si Jésus vous prenait tout à nouveau avec vous et va vous aider à comprendre les Écritures. Il faut comprendre ces choses, mes frères et sœurs, c'est très très important. Si nous voulons la paix, il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Premièrement, je crois qu'il faut réaliser sa puissance. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout puissant? Dieu est puissant, il est là. Vous le croyez qu'il est là? Ce matin, j'étais en train de réfléchir pour la prédication de dimanche. Les prédications du dimanche, j'aime bien les préparer un petit peu avant. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai eu une pensée, un souci. Comme ça vous arrive d'avoir un souci, non? Et puis je me suis dit, mais que t'es bête. Vous le croyez? Je me suis dit, mais que t'es bête. Tu es là, Seigneur. Et ça m'a de suite apaisé. De suite. J'ai dit, mais Seigneur, tu es là. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton père qui voit. Mais ça m'a de suite apaisé. Mais vous l'avez déjà vécu ça. Vous commencez à partir dans toutes les directions parce que le ciboulot, ça part vite. Je ne sais pas de chez vous, mais parfois, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais parfois, en quelques secondes, on a vite fait de partir à tous azimuts. C'est pas vrai? Et là, je pensais, mais non, mais quand tu pries, ton père, il est là. Il m'a dit, vous savez tout de suite? Mais que je suis bête, vraiment, que je suis bête. Ça, vous ne le saviez pas, mais bon, c'est pas grave. Regardez la réaction de Gédéon. Vous avez vu Gédéon, choisi par Dieu. Vous avez lu le livre des juges? Qui a lu le livre des juges? Allez, levez la main. Qui a lu? Bon, alors je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas levé la main assez haute. Gédéon se trouve choisi par Dieu. Sa première réaction paraît même négative. Il commence à se plaindre, oui, et pourquoi si, si et cela? Mais en fin de compte, dans son cœur, il y a quelque chose. Mais on va le lire, ce qui nous intéresse. Juges, chapitre 6. Regardez avec moi. Vous ne le lirez pas. Vous le méditerez et vous verrez comment Dieu donne la paix à quelqu'un. Ces choses ont été écrites, non pas pour qu'on sache comment Gédéon est devenu un libérateur. Ces choses, elles ont été écrites pour que nous comprenions qu'avec de bonnes réactions, nous obtiendrons la même chose. Juges chapitre 6. Bon, Dieu va vers lui, on se demande pourquoi au début, parce qu'il réagit mal. Mais regardez, au verset 17, Juges chapitre 6, verset 17. Regardez comment tout d'un coup, sa réaction est saine. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous avez vu? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Si on est ici ce soir, est-ce qu'on n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu? Franchement, vous préféreriez être dans, je ne sais pas moi, dans un nightclub où les gens sont pris par la drogue? Vous croyez que ces gens-là ont trouvé grâce aux yeux de Dieu? Si on est ce soir dans un lieu de culte, la Bible sur les genoux, en train d'écouter sa parole, laissez-moi vous dire qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors, on va lire quand même la suite, parce que c'est quand même le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a un besoin. Il a un besoin d'offrir quelque chose. Vous savez, quand on est touché par Dieu, on a envie de lui donner son cœur. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu, c'est que vous n'avez pas été touché par sa grâce. Vous avez peut-être fait une expérience, vous avez été guéri d'un cancer, vous avez peut-être trouvé un bon boulot parce que vous étiez au chômage. Mais je peux vous dire que quand quelqu'un a été touché par la grâce de Dieu, c'est un besoin, il a envie d'offrir quelque chose au Seigneur. Si vous n'avez pas ce réflexe, demandez à Dieu qu'il vous touche. Il le fera. Regardez. « Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Je t'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. » Il ne sait pas qu'il a affaire à l'Éternel. Il croit que c'est un ange. Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébenthe, les lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Et regardez sa réaction. Gédéon bâtit là, personne ne lui a demandé, hein, il le fait de lui-même. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra. Amen. Et quand il est écrit « Il existe encore aujourd'hui », ça veut dire pour nous que ça peut se reproduire encore maintenant, aujourd'hui. Vous avez vu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il offre sa vie au Seigneur, c'est l'image, Dieu approuve ça, bien entendu, en mettant le feu, c'est l'image de l'approbation de Dieu. Et quelle est la conséquence? Il construit un hôtel, il l'appelle l'Éternel paix. Je peux vous dire que ça l'est mal. Quand vous lisez la suite, le pays était dans une guerre totale, mais lui, il était en paix. Notre pays est en crise, quoi que ce soit qui peut se passer, ici ou là, ou ailleurs, ou même dans le royaume de Dieu, quand vous avez cette attitude de cœur, votre cœur est en paix. D'ailleurs, pour combattre le bon combat, dans l'Église, il vaut mieux être en paix. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a parfois des chrétiens qui n'ont pas la paix, ils veulent combattre ou évangéliser, et ils font plus de mal que de bien. Avant que Gédéon ne devienne le grand libérateur d'Israël, avant qu'il amène la paix sur le pays, il a d'abord eu la paix avec Dieu. Et je crois que ça, c'est très important. Il l'a fait de lui-même, il a découvert ce Dieu avec qui, au début, ça commence un peu difficilement. Il découvre ce Dieu et il l'appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, oui, moi, dans mon cœur, il y a un Seigneur qui me procure continuellement sa paix. Gloire à Dieu. C'est ça l'enseignement. Et quand on offre sa vie à Dieu, oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je le répète, je vous pose la question. Avez-vous trouvé grâce aux yeux de Dieu? Il n'y en a que trois qui ont répondu. Est-ce que franchement, c'est sérieux ma question, c'est pas pour vous faire passer le temps. Est-ce que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu? Est-ce que vous en êtes convaincu? Alors, développez cette faveur, cette communion, et je peux vous dire que vous ne pourrez pas faire autrement que d'avoir la paix. Les chrétiens sont justifiés par la foi. C'est écrit, Romains dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Sauveur Jésus. Mais c'est sûr, quand on passe par la croix, nous sommes justifiés et nous avons la paix. Mais cette paix, il faut qu'elle soit au quotidien. Il faut qu'elle soit entretenue. Et c'est pour ça qu'il faut être ferme. Et je voudrais terminer avec deux ou trois textes pour vous montrer l'importance de vous faire violence par rapport à la parole de Dieu. Regardez dans Ésaïe. Vous tournez quelques pages, vous allez un peu plus loin. Dans Ésaïe, enfin c'est un peu beaucoup plus loin. Dans Ésaïe 26, il y a une clé pour avoir la paix. Il y a des chrétiens qui sont toujours instables, inconstants, irrésolus. La Bible parle de ces, utilise ces mots pour expliquer que ces gens-là ne reçoivent jamais rien. Dieu demande aux chrétiens de se faire violence. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mais Ésaïe le présente encore mieux. Enfin, encore mieux. Ça, on le comprend mieux, c'est complémentaire. Ésaïe 26, verset 3. Regardez bien ce verset. C'est un verset très important pour rester dans la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Celui qui est ferme, voyez, ce n'est pas l'instabilité. Ah bon, un jour, oui, c'est vrai, je sais que Dieu m'aime, vous l'avez dit dimanche à la prédication, mais là, je ne sais plus si Dieu m'aime, j'en sais rien, je suis minable, est-ce que Dieu... Mais Dieu nous aime. Celui qui est ferme dans ses sentiments, ce n'est pas dans ses émotions. Il est ferme par rapport à ce que Dieu dit. Il ne tergiverse pas. Dieu a dit ça, je le crois. Celui qui est ferme, qui prend la décision, ce n'est pas un trait de caractère. À toi, tu es ferme. À moi, je ne suis pas ferme. Non, c'est un choix. Je choisis de ne pas remettre en question la parole de Dieu. Eh bien, le gars qui décide de ne pas remettre en question la parole de Dieu, eh bien, Dieu lui assure la paix. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette attitude de cœur est synonyme de véritable confiance. Confiez-vous en Dieu. Jésus l'a dit, mais ne priez pas comme les païens. Il l'a dit ou il n'a pas dit ça ? Ne priez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et des fois, on est maladroit parce que des fois, on dit aux gens, il faut prier, il faut prier. Non, il faut se confier en Dieu. J'ai prié deux jours, monsieur Gault. J'ai fait même un jeûne et prière de trois jours. Je suis encore plus découragé. Eh oui, parce qu'ils ont fait confiance dans leurs efforts. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Il ne faut pas faire confiance dans ses efforts. Il faut faire confiance à Dieu. Ne prions pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ne fait-on pas comme ces gens religieux qui s'imaginent qu'à force de jeûne et prière, tant mieux si vous aimez prier longtemps, tant mieux si vous aimez jeûner et prier, mais ça ne remplacera pas une confiance totale en Dieu du matin au soir. Mes frères et sœurs, c'est important. Dans Philippiens, c'était peut-être un des versets clés du Nouveau Testament. Il y a deux ou trois choses à faire pour avoir la paix. Ce verset, les premières années de mon ministère à Toulouse, vous l'entendiez toutes les semaines. Donc vous savez lequel verset je vais utiliser. Philippiens chapitre 4, verset 4. On va lire jusqu'au verset 9. Et je voudrais que vous vous y appliquiez. Vous allez me dire, ah mais je connais par cœur. Eh bien, c'est bien. Est-ce que vous le vivez par cœur hein? Philippiens chapitre 4, verset 4. Tiens, je vais vous le lire dans la Darby. Ça ne vous gêne pas que je le lise dans une autre version ? Hein? Ça ne vous gêne pas ? Alors, Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors, le Seigneur est proche, ça ne veut pas dire le retour du Seigneur est proche. Le mot proche, ça veut dire à portée de main. Ça veut dire que le Seigneur est toujours accessible. Mais ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez vu au verset 7, il est dit « La paix de Dieu gardera vos cœurs ». Et au verset 9, il est dit « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Vous avez vu avec moi? Vous avez vu qu'il y a deux choses. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Et si nous vivons dans l'obéissance, ce n'est pas la paix de Dieu, c'est le Dieu de paix qui sera avec nous. Est-ce que vous faites la différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut respecter la première partie en se réjouissant dans le Seigneur, en ne s'inquiétant pas et en priant. À partir de ce moment-là, si je vis ces choses, si je les applique, donc dans le temps où je suis en train de prier, c'est vrai, je me réjouis, bon, il n'y a pas de quoi se réjouir avec ce que je vois, mais je ne me réjouis pas. Jésus dit pas « réjouissez-vous de ce que vous voyez », la Bible dit « réjouissez-vous dans le Seigneur ». J'espère que vous faites la différence. On peut toujours se réjouir dans le Seigneur, quand même. Ça serait grave de ne pas penser, de penser autrement. Ne vous inquiétez de rien, c'est un commandement. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la paix. C'est incontournable. Priez des requêtes et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Mais si on en reste là, un quart d'heure après la prière, la paix de Dieu peut se volatiliser. Par contre, si vous respectez le verset 8 et 9, vous ferez la différence entre le fait de prier, de se décharger, d'obtenir la paix de Dieu, mais vous comprendrez que c'est autre chose que de vivre après la prière dans un état d'esprit de victoire et que le Dieu de paix soit avec nous. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? La différence entre la paix de Dieu qui nous est donnée parce qu'on cède à deux ou trois instructions et puis le fait qu'après, prière ou pas, nous vivons dans un état d'esprit d'obéissance, ce qui fait que le Dieu de paix est avec nous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, quand je prie, ça va, je suis content, moi, quand je prie. Mais dès que je prends le volant pour aller au boulot, eh bien, je m'inquiète. Hein. » C'est exactement ça. Ils obtiennent la paix pendant qu'ils prient, mais ils ne restent pas dans un état d'esprit concentré que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, là-dedans, ça tourbiconne. Mais franchement, mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vaut pas la peine de veiller sur ses pensées? Vous arrivez à le faire? On peut le faire. Non, je refuse de m'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est un commandement, ne vous inquiétez de rien. Vous le savez que Dieu prendra soin de vous. Vous le savez. Il prendra soin de vous, quelles que soient les difficultés. Regardez les 12, Jésus aurait pu leur dire, mais franchement, mais vous êtes des minables. Je vous l'ai dit 50 fois et vous êtes enfermés dans la chambre là, mais vous devriez avoir honte. Il aurait pu leur dire. Allez, j'y reviens. Est-ce qu'il aurait pu leur dire? Mais bien sûr qu'il aurait pu leur dire. Que son nom soit béni pour sa tendresse. Et ce soir, il ne va pas venir avec le bâton, comme un jour quelqu'un disait, oui, le Seigneur, il a un bâton, c'est écrit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, j'ai dit, attendez, le bâton, ce n'est pas pour les brebis. Le bâton, c'est pour les ours, pour les loups. Non, mais vous savez, c'est facile. C'est vrai que Jésus peut parfois, j'allais dire, nous tacler. Je le dis, le mot, je l'utilise volontairement. Je connais un pasteur qui a vu quelque chose en Suisse, je crois que c'était, il me l'a raconté. Il m'a dit qu'il a été voir un berger. Tous les ans, il partait dans les coteaux, dans les montagnes, voir des bergers pour discuter avec eux. Et un jour, il est arrivé chez un berger, et au moment où il arrivait, le berger prenait un bâton, un grand bâton, et il l'a pris, et il l'a fait tournoyer au ras du sol. Et c'est arrivé sur une brebis, paf, ça y a cassé une patte. Et il a dit, mais il est fou. Et quand il est arrivé au niveau de la brebis était à 2 ou 3 mètres d'un ravin. Et il l'a empêché de tomber dans le ravin. Le gars a été bouleversé par cette affaire. Vous savez, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il a bien fait de lui casser la patte. Ouais. Mais voyez, de loin, il trouvait ça bête. Vous savez, le Seigneur, il peut parfois nous arrêter d'une façon brutale, j'en conviens. Mais quand on sera là-haut, on remerciera Dieu pour bien des choses qu'on n'a pas compris sur la terre. On pourra nous dire que comme Job, mes yeux, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant j'ai vu. Vous croyez que le Seigneur y joue avec la santé des gens, avec la santé, avec les nerfs des gens? Le Seigneur, il est tout puissant. Ce qu'il demande, faites-lui entièrement confiance. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie
et la paix. Et quand on s'affectionne à ces choses, eh bien, on est en paix. Ce soir, Dieu savait qu'il serait là. Il n'a qu'un désir, le Seigneur, comme il l'a fait quand il est entré dans la chambre haute, où ils étaient inquiets, parce qu'ils avaient peur. Eh bien, c'est sûr, on avait arrêté Jésus, on l'avait crucifié. Ils ont dû se dire, mais peut-être que c'est nous les prochains. Est-ce que ça tenait debout comme raisonnement? Eh bien sûr. C'était quand même normal qu'ils aient peur. Mais Jésus leur a dit, que la paix soit avec vous. Écoutez, mes frères et sœurs, vous savez, je me tiens devant Dieu. Et je peux vous dire une chose, ce que Dieu veut ce soir pour chacun de vous qui êtes ici, c'est de vous donner la paix. Vous entendez? Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a beaucoup de paix, dit David dans le psaume 119, verset 65, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Vous aimez la loi de Dieu? Vous aimez entendre la prédication de la parole? Eh bien, la Bible est catégorique, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Alors, on va terminer en lisant le psaume 4. D'accord? Alors, la paix, il faut la rechercher. C'est écrit, Paul dit à Timothée, recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ce qu'on fait ce soir. Quand il dit, recherchez la paix et la sanctification. Mais regardez dans le psaume 4. J'aime ce psaume 4 parce que c'est un psaume par lequel Dieu m'a parlé quand j'étais très mal. C'était peut-être le moment de mon ministère où j'étais le plus mal. Le plus fatigué, le plus découragé. J'ai compris quelque chose qui a bouleversé ma façon de parler à Dieu. C'était un mardi soir, je me rappelle. Et j'ai fait ce qui est écrit là. Psaume 4, verset 4. Je vous le lis dans la version Darby. Agitez-vous et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquille. Vous avez, taisez-vous. Hein? C'est bien ça. C'est très bien. De parler, parler, c'est dans vos cœurs. Hein? Vous savez que vous pouvez parler à Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous parlez à Dieu dans votre cœur? Vous savez que Dieu vous entend quand vous parlez dans votre cœur? C'est pas extraordinaire ça? Est-ce qu'il y a des preuves bibliques que Dieu entend la prière? Oui, Anne, elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Et Dieu a entendu, voyez? Et regardez la fin de verset 8. Je me coucherai et aussi je dormirai en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Frères et sœurs, endormez-vous en paix. Parlez à Dieu dans votre cœur. Quoi que ce soit qui arrive, vous avez vu ce qui va venir sur la terre? Vous avez vu? On a commencé par quelque chose de terrible. Les hommes vont s'égorger les uns les autres. Le psaume 4, hein? C'est pas ça que j'ai dit? Oui, je sais. Mais oui, mais souvent la Darby, ça indique une autre notion. Mais en tous les cas, méditez dans vos cœurs, sur votre couche. Je vous encourage à méditer dans votre cœur. On va fermer les yeux quelques instants. Ce soir, je suis convaincu que Dieu veut vous donner la paix. Vous avez peut-être de la crainte, du trouble, peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et qu'est-ce qui va vous arriver? Que Dieu a des projets de paix. Voilà ce qui va vous arriver. Si vous restez à côté de lui, même si vous êtes troublé, laissez-le vous parler. Prenez-le avec vous. Entrez dans votre chambre, parlez tout à l'heure, dans votre lit, parlez-lui, parlez-lui dans votre cœur, et vous vous endormirez en paix. Alléluia. On le remercie. Ce qu'il a fait avec les 12, il le fera avec nous. Vous savez que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il veut vous donner la paix. Notre Père, oui, nous croyons que ta patience est notre salut. Que tu es le prince de la paix. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons perdu la paix à cause de notre négligence, à cause de nos péchés, à cause de notre endurcissement, ou parce que le diable nous l'avait volée. Nous te remercions de nous l'avoir redonnée. Merci. Nous le savons que c'est au calvaire que tu as tout accompli, afin que par ton châtiment, nous ayons la paix. Seigneur, je sais que tu veux bénir cet auditoire, tous. Tu savais qu'ils viendraient ce soir, alors que ta bénédiction et que ta paix soient données en abondance à chacun. Que ton nom soit béni, Jésus.